Rebonjour. Ça vous a surpris là, hein? Alors avant de commencer, j'aimerais prier. Père Céleste, merci de nous avoir rappelé ce matin que si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Et c'est toi qui as tout fait pour cela. Et merci parce que on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une réalité, que nous sommes à ta table, que nous sommes tes enfants. Et tu nous as acquis un avenir éternel, mais tu as souhaité que nous restions encore sur terre, et parce que tu as des choses à nous apprendre. Et Seigneur, nous voulons maintenant ouvrir ta parole, et merci de parler à nos cœurs, merci de nous encourager encore ce matin dans l'étude de ta parole. Amen. Alors, vous savez qu'on est dans l'évangile de Marc. Et donc, la semaine dernière, c'était Marc 5. La semaine prochaine, ça sera Marc 7. Donc, aujourd'hui, c'est Marc 6. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder Marc 6. Je ne sais pas si c'est le plus long chapitre de l'évangile de Marc, mais il y a plus d'une cinquantaine de versets. Donc, on va les voir ce matin tous en détail, en s'arrêtant sur chacun des mots. Pas tout à fait. Juste pour brosser le tableau de Marc 6, dans Marc 6, il y a différents épisodes. On va voir Jésus chez lui à Nazareth. Et on va voir que c'est pas facile de témoigner dans sa famille. Mais ce que je remarque, c'est qu'il témoigne quand même. Bref, on va pas s'arrêter là-dessus ce matin. On voit aussi que Jésus va envoyer les 12 en mission, deux par deux. Et on voit là que Dieu met sa puissance au travers des hommes. C'est pas merveilleux, ça? On va voir aussi dans Marc 6, il y a aussi dans Marc 6, l'assassinat de Jean-Baptiste. Pas celui-là, hein, celui des évangiles. On voit aussi qu'il y a la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour 5000 hommes. Jésus est ému de compassion. C'est pas beau? Et il nourrit 5000 hommes. On voit aussi dans ce chapitre que Jésus va marcher sur les eaux et que Jésus va encore guérir des malades. Alors ce matin, j'ai eu à cœur de partager, qu'on partage ensemble le passage de la mort de Jean-Baptiste. C'est peut-être pas celui qui saute le plus aux yeux, et c'est peut-être un petit peu pour ça que je l'ai pris. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une étude suivie, c'est qu'on peut aborder des thèmes qu'on aborde peut-être un petit peu moins d'habitude. Alors ce matin, on va parler de la mort de Jean-Baptiste, ou plus précisément, de l'assassinat de Jean-Baptiste. On va faire un pas de recul. Dans les évangiles, et c'est le cas dans l'évangile de Marc, nous voyons une progression dans la révélation de l'identité de Jésus-Christ. C'est l'objectif des évangélistes, d'accord? C'est qui nous montre qui est Jésus-Christ. Parce que ça nous renvoie à la question, à chacun d'entre nous, qui est Jésus-Christ vraiment? Et quelque part, la question sous-entendue, c'est qui est Jésus-Christ pour toi? Le lecteur. À l'époque également, tout le monde s'interroge et il y a beaucoup de mouvements autour de Jésus. On va voir ça dans le texte. Et c'est le cas d'Hérode également qui s'interroge sur l'identité de ce Jésus. Et il est tourmenté par sa conscience car il croit voir Jean-Baptiste. Celui qu'il a fait décapiter, il pense que c'est ce Jésus qui a ressuscité. Alors, on ne va pas aller plus loin là-dessus, mais c'est juste intéressant de noter que la question de l'identité de Jésus le renvoie à son propre péché. La question de l'identité de Jésus le renvoie à son propre péché. Alors, le texte qu'on va prendre est une sorte de flashback. Ça va tout le monde, flashback? De retour en arrière dans l'histoire. Marc explique ce qui s'est passé quelque temps plus tôt. Et on va le lire. Alors là, c'est trop petit. Alors, lisons-le. Marc 6, versets 14 à 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Marc 6, verset 14 à 29. Alors, pour aborder ce texte qui met un peu mal à l'aise quand même, voire pas mal, je vous propose qu'on s'arrête plus précisément sur les portraits d'Hérode et de Jean-Baptiste. Deux hommes que tout oppose, mais que les circonstances vont réunir. Et d'essayer de voir ce que l'on peut en tirer pour notre vie personnelle. Alors le titre que j'ai donné à ce message, c'est « L'échec terrestre d'Hérode et la victoire éternelle de Jean-Baptiste ». Alors commençons par Hérode. Il y a beaucoup d'Hérode dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Celui dont on parle, c'est Hérode Antipas. C'est le fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est ce bâtisseur qui a reconstruit le temple et plein d'autres choses. C'est aussi ce persécuteur des nouveau-nés, ce pourquoi Joseph et Marie sont partis en Égypte. Et Hérode le Grand, si on fait un petit peu sa vie familiale, a eu 5 femmes et a assassiné 3 de ses propres enfants. Sympa le contexte, merci papa. Donc ça, c'est le papa d'Hérode Antipas. Hérode Antipas est tétrarque. C'est pas une maladie. C'est pas un batracien non plus. C'est-à-dire qu'il est nommé par le Sénat romain pour gouverner une province romaine. D'accord, les tétrarques gouvernaient des parties des provinces romaines. Mais Hérode aspire à être roi. Et d'ailleurs, les commentateurs pensent que Marc le présente comme roi dans le texte, certainement par ironie. Parce que quand vous prenez les autres évangiles, Matthieu et Luc le présentent comme Hérode le tétrarque. Alors sa province, désolé, la qualité de la carte n'est pas terrible, mais sa province couvrait la Pérée, vous savez bien sûr où est la Pérée, et la Galilée. Alors c'est les deux territoires en rose. D'accord ? C'est marrant, on va y revenir, mais c'est marrant de voir que ces deux territoires sont de part et d'autre du Jourdain. On y reviendra. Alors si on résume un peu l'épisode de Marc 6, on peut considérer, j'ai schématisé un peu cet épisode de Marc 6, et on va le voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans Marc 6 ? On commence par de la convoitise, avec Hérodias. Et Hérode va commettre un adultère avec Hérodias. Ensuite, malgré le fait que Jean-Baptiste lui dise que c'est pas bien, il va continuer. Il va rien changer. Et ça va le pousser à essayer de faire taire, ou en tout cas, Hérodias va le pousser à essayer de faire taire Jean-Baptiste. Et ça va provoquer un emprisonnement injuste. Mais c'est pas assez encore. Il va y avoir des manigances et des complots d'Hérodias. Et là, à nouveau, on a la convoitise qui rentre avec la danse de Salomé, la fille d'Hérodias. Et on continue. Hérode, par serment, s'était engagé et, quelque part, ne va pas revenir même s'il appréciait Jean-Baptiste, il ne va pas revenir sur sa décision par orgueil, puisqu'il ne voulait pas être mal vu de sa cour. Et on a l'assassinat d'un homme de Dieu qui se passe après. Des tristesses, des regrets, et par la suite, des tourments. Ça, c'est le cercle vicieux du péché d'Hérode. Nous connaissons tous ce cercle, n'est-ce pas ? On voit que dans le cercle du péché d'Hérode, la convoitise est à la première place. Et ce cercle résonne avec le texte de Jacques 1, verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Une petite anecdote sur la convoitise. Un jour, Abraham Lincoln se promenait avec ses deux fils. Et les deux fils pleuraient. Un passant demande au président ce qui n'allait pas avec les deux garçons. Abraham Lincoln répond : « Exactement ce qui ne va pas avec le monde entier, » répondit Lincoln. « Je n'ai que trois noix et chaque garçon en veut deux. » Je n'ai que trois noix et chaque garçon en veut deux. Celui qui convoite ne veut pas seulement ce qu'il n'a pas, mais aussi ce qu'il ne peut pas avoir. Convoiter est un désir dévorant, qui cherche la compétition. C'est une attitude mauvaise qui finira certainement, et c'est le cas ici, par un acte mauvais. La convoitise d'Hérode portait sur des passions dévorantes, qui étaient, et on peut le lire un petit peu entre les lignes, la soif du pouvoir et la débauche. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça, ces dernières semaines ? Alors, on va s'arrêter un petit peu sur les passions d'Hérode. La soif du pouvoir. Ah. Alors, la première, c'est la soif du pouvoir. Quand on observe la vie d'Hérode, on s'aperçoit que sa soif de pouvoir était étroitement liée à un désir de reconnaissance des autres, de tous les autres. Hérode désire tellement être reconnu comme roi par les autres qu'il va se soumettre à leur pression. jusqu'à se retrouver piégé. Alors la première pression, c'est la pression des Romains. On l'apprend par les commentateurs, c'est que Hérode Antipas a construit la ville de Tibériade en l'honneur de l'empereur romain Tibère, car il veut être bien vu des Romains. Mais il y a aussi la pression du peuple. Des commentateurs ont considéré le remariage avec Hérodias comme une manœuvre politique pour se faire accepter du peuple, car Hérodias était de par sa mère de lignée royale juive. Il y a aussi la pression, et on le voit dans l'épisode, des hauts dignitaires. Hérode va se retrouver à faire un serment devant sa soi-disant cour en promettant la moitié de son royaume, qui ne lui appartient pas, et ordonne l'exécution de Jean-Baptiste sans procès. Hérode va s'octroyer des pouvoirs qu'il n'a pas pour impressionner sa cour et se retrouve obligé d'aller au-delà de ses prérogatives de tétrarque. Pression ensuite d'Hérodias, sa femme. Hérodias semble être l'instigatrice de l'anniversaire. Il faut savoir qu'à l'époque, les anniversaires ne se fêtent pas chez les Juifs. C'est une pratique païenne. Vraisemblablement importée par Hérodias en Israël. Hérodias va faire danser sa fille devant son mari et ses amis, alors qu'à l'époque, ou en tout cas dans ce genre de fête, les hommes et les femmes sont séparés. Il n'y a pas de liaison, ça ne peut pas arriver par hasard. Puis elle va commanditer un meurtre par décapitation. La décapitation. On en parle beaucoup en ce moment. Malheureusement, tristement. Et à l'époque aussi, la décapitation n'est pas quelque chose de pratiqué. C'est aussi une pratique païenne. On fait mourir les gens différemment. Hérode est donc également sous l'influence de sa mauvaise femme, Hérodias. Il est fort à parier qu'il ne voulait peut-être pas la décevoir ou la contrarier. Hérode voulait être reconnu aux yeux des autres. Et nous, de qui voulons être reconnus? Qu'est-ce qui a pour moi le plus de valeur? Les yeux des hommes, de mon patron, de ma famille, de mon voisinage, des frères et sœurs de l'Église, ou les yeux de Dieu? Ce choix est un fondement de nos vies, car tout le reste va en découler, et on le voit dans la vie d'Hérode. Mes pensées, mes désirs, mes actions, mes comportements, ma vie. Alors après la soif de pouvoir, arrêtons-nous un petit peu sur les indices du texte qui nous montrent que la débauche aussi était partie intégrante de la vie d'Hérode. Alors dans la débauche, j'ai mis plusieurs choses. La première, c'est celle qui est criante, c'est l'adultère. Hérode était marié et Hérodias aussi était marié, en plus à la femme de son frère. D'accord? Donc il n'y a pas d'ambiguïté là. Au passage, Hérodias était aussi sa nièce. Bon, c'est pas grave. D'après Lévitique 18, verset 16, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. » J'essaie d'imaginer un petit peu. Mais vous savez aussi, dans la Bible, il est dit qu'il fallait prendre soin de la veuve de son frère. Mais c'est complètement différent, là. Parfois, je ne sais pas, mais on peut déformer les commandements de Dieu. Ou bien s'en accommoder à moitié. Alors, il y a la partie adultère. Et on voit aussi ce qui se passe dans Marc 6. La situation rapportée par le texte de Marc est malsaine. On en a déjà parlé un peu. La fille danse seule devant des hommes. Comme une stripteaseuse. comme si Hérodias, la maman, donnait en pâture sa propre fille. Petite remarque aussi au passage, on voit qu'il y a de l'alcool. On dit qu'il était enivré, Hérode, à ce moment-là. Et on voit que l'alcool et la fête n'ont jamais été des circonstances idéales pour prendre des décisions éclairées. Alors, comme pour Hérode, les passions non maîtrisées et non canalisées sont des tyrans dans nos vies et nous pressent de toutes parts jusqu'à nous faire dévier de notre trajectoire. C'est pas Elliot qui a décidé, hein, c'est moi, mais c'est pas une... Qu'est-ce que je fais de mes passions? Alors, une remarque, Dieu n'est pas contre les passions lorsqu'elles ne sont pas déréglées comme pour Hérode. On est bien d'accord. Dieu souhaite simplement que nous les maîtrisions pour que ce ne soit pas elles qui nous maîtrisent. Il souhaite que nous en soyons libres et qu'elles ne nous éloignent pas de lui. Et Dieu ne nous laisse pas seuls pour cela. Et il veut nous aider à gérer ses pensées, ses désirs, ses convoitises, ses passions non maîtrisées, en les amenant captives à Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul va dire en 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, et on pourrait mettre tout ce qui s'élève contre Dieu et donc les passions, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hérode était alourdi par ses passions non maîtrisées et dévoré par son ambition, et il était à l'opposé total de Jean-Baptiste, dont la vie était consacrée à Dieu. Jean-Baptiste. Jésus-Christ dira de lui qu'il était le plus grand. Matthieu 11, verset 11. Ainsi, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur Jean-Baptiste, puisque nous avons des choses, il me semble, à apprendre de lui. Alors, je suis frappé par le témoignage de Jean-Baptiste sur deux aspects. Le premier, son discours, et plus particulièrement, le thème principal de son discours. Le discours principal de Jean-Baptiste est la repentance qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? La repentance est nécessaire à l'entrée de Jésus-Christ et l'entrée de sa grâce dans notre vie. Je répète, la repentance est nécessaire à l'entrée de Jésus-Christ et de sa grâce dans notre vie. On a beaucoup parlé de la grâce ce matin. Et cette grâce, elle est à notre portée. Mais la porte, c'est la repentance. Et c'est ce que prêchait Jean-Baptiste. La repentance, c'est le fait d'accepter de s'être trompé en menant sa vie sans Dieu. Soit d'une manière générale, soit dans un domaine précis. Le fait de se laisser interpeller par Dieu et de lui demander pardon est une discipline obligatoire du non-chrétien, et ça, ok, mais du chrétien. Sans quoi Jésus-Christ reste à la porte de notre vie. Et c'est dramatique. En fait, si on réfléchit bien, Hérode et aussi Hérodias ont lutté non contre Jean-Baptiste, mais contre la repentance dans leur vie. Ils n'ont pas voulu se détourner de leur péché, et cela a été la spirale qui les a entraînés plus bas et plus bas et plus bas encore. Et cela nous concerne aussi. Et devrait nous poser la question, de quelle est ma réaction face au péché dans ma vie. Et ce, quelle que soit ma position vis-à-vis de Dieu aujourd'hui. Alors, en tant que non-chrétien, ou pas encore engagé avec le Seigneur, est-ce que j'aime à écouter les valeurs et enseignements bibliques, simplement, sans que cela change réellement quelque chose dans ma vie? Alors, on va prendre un petit indice géographique. On va reprendre la carte de tout à l'heure. Et on va essayer de voir, je ne sais pas si vous voyez là, le point jaune, vous l'avez vu apparaître ou pas? Ouais, hop, vous l'avez vu là? D'après Flavius Joseph, qui est le grand historien de l'époque, l'épisode de Marc 6 se passe à Machaerus. Machaerus, c'est une forteresse escarpée d'Hérode le Tétrarque, qui est située à l'est du Jourdain, à 1100 mètres dans les monts de Moab. Ok ? Cette forteresse n'est pas dans le pays promis. Elle est à l'extérieur du pays promis. Et à l'est du Jourdain. Dans l'Ancien Testament, la traversée du Jourdain symbolise l'entrée dans le peuple de Dieu par le baptême, qui est la conséquence de la foi. Hérode a eu, d'après le texte, l'occasion de changer, car il a écouté Jean-Baptiste à plusieurs reprises, mais il a persisté dans son péché et n'a jamais plongé dans le Jourdain. Il est resté à l'extérieur. Être sympathisant des valeurs chrétiennes n'est pas suffisant. L'essentiel est de choisir le bon côté du Jourdain. Alors, en tant que chrétien maintenant, est-ce que j'aime à écouter les beaux messages qu'on a parfois le dimanche matin? Et des fois, j'aime bien ouvrir ma Bible et je trouve qu'il y a des choses qui sont sympas, qui sont dites dedans. Mais est-ce que ce que je lis, est-ce que ce que j'apprends de Dieu a encore un réel impact dans ma vie? À quand remonte la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je tue mon besoin de repentance, parfois en m'inventant des raisons bien humaines et bien rationnelles. Alors quand je parle à Dieu, c'est « je ne l'ai pas fait exprès ». De toute manière, ça ne se reproduira plus. Donc, Puis quand je vois ce que d'autres font, ou alors quand il s'agit des autres, bon, il n'a pas dû s'en apercevoir, c'est pas la peine que... Puis il l'avait bien cherché, hein. Puis par rapport à ce qu'elle m'a fait la dernière fois, c'est bon, quoi. J'ai besoin des forces et du courage de Jésus-Christ pour que la repentance puisse être un réflexe inscrit en moi. Et même si parfois la spirale du péché est amorcée, alors pas comme celle d'Hérode, mais il y a des points communs quand même, et parfois même elle est bien amorcée, il est toujours possible d'en sortir. Car Dieu, dans son amour, souhaite nous pardonner et nous accompagner sur le chemin de la restauration. Car Dieu, dans son amour, souhaite nous pardonner et nous accompagner sur le chemin de la restauration. Et c'est l'histoire de Méphibosheth. Alors ça, c'était le discours. Je suis frappé aussi sur la manière dont Jean-Baptiste parle. Jean-Baptiste, c'est clair, il a un témoignage qui est tranché, sans compromis, il dit les choses vraies. Mais pas à coup de massue, ou pas à coup de lance-pierre comme moi je fais tout le temps. Jean-Baptiste devait vraiment être inspiré par Dieu pour que, malgré sa situation d'emprisonnement injuste, d'avoir les ressources pour expliquer avec pédagogie, amour, patience le plan de Dieu pour son geôlier Hérode. À un point tel qu'Hérode prenait plaisir à l'écouter et qu'il avait de l'estime pour lui alors qu'il lui disait qu'il était en faute. Comment est-ce que je témoigne avec les gens qui ne partagent pas mes convictions? Ça m'interroge. Comment est-ce que je témoigne avec les gens qui ne partagent pas mes convictions? Le témoignage aimant, vrai et cohérent sur la durée, et quelles que soient les circonstances, entraîne le respect des récalcitrants, et parfois même leur conversion. Laissons Dieu nous renouveler dans notre témoignage. Lui seul peut trouver les chemins des cœurs tortueux si nous le laissons agir au travers de nous. Alors dans la vie de Jean-Baptiste, on voit son discours, on voit aussi son renoncement. Jean-Baptiste a vécu détaché des choses terrestres. On le voit dans d'autres passages. Il vivait dans le désert. Pas de toit, pas d'appart, pas de maison. Se nourrissait de miel sauvage, s'habillait en peau de bête. Jean-Baptiste a renoncé à son confort toute sa vie. Et au-delà de ça, Jean-Baptiste a vécu le renoncement ultime en mourant par conviction. Il aurait pu dire, bon, allez, c'est bon, Hérode, ok, t'as pas envie d'écouter, je pars à côté, et puis... Jean-Baptiste est mort par conviction car il était plus attaché à Dieu et à la vérité qu'aux mensonges et au péché. Ainsi, Jean-Baptiste vit et meurt sans compromis face au péché, à l'emprisonnement, à la mort, transformé par la connaissance de Dieu et au service de Jésus-Christ. Je me suis aussi interrogé sur le fait que... Alors là, le texte ne dit rien, donc... On va pas faire de doctrine là-dessus, mais on peut le rapprocher de d'autres textes, sur le fait que Jean-Baptiste ne se plaint pas. Il va mourir sans rien dire. Et quelque part vivent ces paroles d'Ésaïe, qu'on trouve au chapitre 30 et les versets 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce calme et ce repos, c'est notre position en Jésus-Christ. C'est l'assurance de notre salut, notre accès au trône de la grâce qui est acquis une fois pour toutes, notre accès à la table du roi. En effet, la paix intérieure du chrétien se construit uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ et dans l'intimité de la relation avec lui. Et cela nous permet de vivre réellement ces paroles que j'ai trouvées de Montesquieu, d'ailleurs c'est un peu bizarre, mais à mon avis c'est pour d'autres raisons qu'il les utilisait. Quand un homme s'examine, quelle satisfaction pour lui de trouver qu'il a le cœur juste. Quand un homme s'examine, quelle satisfaction pour lui de trouver qu'il a le cœur juste. Je me sens personnellement à des années-lumière d'un Jean-Baptiste. Et je le suis. Mais ce qui m'encourage, c'est que j'ai le même Dieu que lui. En tant que disciple de Jésus-Christ, nous sommes également invités à renoncer à nous-mêmes. Peut-être ce matin, tu cibles un aspect de ta vie qui t'alourdit et dont tu aimerais te détacher. Ça pourrait être une passion affective, comme pour Hérode, ou une pulsion sexuelle. Ça pourrait être l'envie d'une maison, d'une voiture, d'une garde-robe différente. Ça pourrait être le regard de quelqu'un qui est pour toi valorisant ou au contraire dévalorisant. Qu'est-ce qui t'alourdit ce matin? Certains d'entre vous, vous le savez, mais j'ai passé, alors c'est un tout petit exemple à mon échelle. Certains d'entre vous, vous le savez, mais j'ai passé plusieurs années à être très frustré dans mon travail. Car j'attendais de la reconnaissance de mon chef, qui n'est pas très enclin aux compliments, mais plutôt à la critique constructive pour nous rendre meilleurs. Vous en connaissez ? Le jour où le Seigneur m'a fait réaliser d'arrêter de chercher à obtenir sa reconnaissance en préférant apprécier ma valeur professionnelle et ma valeur tout court d'ailleurs à la valeur que Christ a payée à la croix pour moi, j'ai commencé à prendre du plaisir dans mon travail. Jean de La Fontaine a dit « La plus belle victoire est de vaincre son cœur. » Vaincre son cœur est une démarche progressive, mais rassurons-nous, notre Dieu est patient et plein d'amour pour nous accompagner sur ce chemin de mort à nous-mêmes. Comme Jean-Baptiste a pu dire en Jean 3, au verset 30, et je paraphrase, « Petit à petit, que Jésus puisse grandir et que je diminue, qu'il puisse prendre plus de place dans ma vie. » On va conclure. Hérode et Jean-Baptiste, deux trajectoires de vie qui se croisent. Se croisent en Marc 6. Pour information, Hérode va tellement descendre bas qu'il va mourir en exil. Les Romains vont lui dire, on en a assez, toi tu pars de l'autre côté du monde, à l'époque, les Pyrénées, en France. Tu meurs seul en exil. Lui qui voulait être reconnu de tous. Et on voit qu'ils se sont rencontrés en Marc 6. Deux trajectoires de vie qui se croisent et qui ne se ressemblent absolument pas. Le contraste est d'ailleurs saisissant. Jean-Baptiste était emprisonné physiquement, mais libre de ses péchés, alors qu'Hérode était libre de ses mouvements, mais englué dans ses péchés et sa soif de reconnaissance. Le passage de la mort de Jean-Baptiste nous invite à faire de la repentance une pratique régulière, afin que Jésus-Christ puisse grandir dans nos vies. Nous sommes aussi exhortés à regarder nos vies avec une perspective éternelle, en nous détachant jour après jour des choses d'en bas, pour nous attacher toujours plus à celles d'en haut, et ainsi de vivre dès à présent une victoire éternelle. Amen.